Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après Abraham, il est temps de parler d'Isaac. Et rappelez-vous une chose, c'est qu'Isaac a accepté d'être offert en holocauste à Dieu. La vie d'Isaac est relativement ordinaire en apparence, mais elle n'est pas moins riche d'une vie chrétienne profonde. Elle est traversée par les épreuves et elle est un grand modèle pour nous, pour tous les chrétiens. J'espère que, avec l'aide du Saint-Esprit, vous y trouverez un véritable modèle. Isaac fut bien éduqué par son père et par Dieu aussi, parce que c'est quand même Dieu qui l'a mis sur le bois du bûcher. Mais l'éducation reçue n'est qu'un début, et cela est vrai pour lui et pour tous les hommes. Chaque homme doit mener à la perfection ce qu'il a reçu. Il ne faudrait pas prendre tous ces grands patriarches pour des hommes qu'on ne peut regarder que de très loin, qu'on ne saurait imiter, sous prétexte que ce sont des hommes exceptionnels qui ont reçu une mission exceptionnelle. Cette mission est importante, évidemment, puisqu'il s'agit de l'annonce de l'incarnation, de la rédemption, mais ce que je veux vous montrer, c'est comment ils vivent dans la fidélité à Dieu. Isaac, donc, a reçu une excellente formation, il a été préservé de l'influence d'Ismaël. Il a, par son père, été marié à une excellente jeune fille qui est devenue sa femme. C'est un jeune époux, et que fait-il? L'Écriture sainte nous dit « Le Seigneur bénit Isaac, et il habitait près du puits de vision. » Vous vous rappelez ce puits, c'est celui qui avait reçu son nom par Agar. Elle avait vu l'ange à cet endroit-là, et elle avait appelé ce puits « Dieu me voit, et je suis vu ». C'est très bref, comme remarque de l'Écriture sainte. Le Seigneur bénit Isaac, et il habitait près du puits de vision. Cela veut dire que l'essentiel de la bénédiction du Seigneur sur Isaac était qu'il habita près du puits de vision. Origène fait remarquer « Précieuse bénédiction » pour qui sait comprendre. Alors, mes bien chers frères, ou bien nous trouvons que sur ces quelques 10 mots, il n'y a pas à s'attarder très longtemps, et à ce moment-là, vous pourrez en dire tout autant pour tous les mots de toute l'Écriture sainte, ou bien vous avez compris ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, que pour trouver, il faut chercher, qu'on vous ouvre, il faut frapper, et que pour recevoir, il faut demander. Et vous avez compris que si le Saint-Esprit nous raconte des choses apparemment insignifiantes, c'est qu'il y a une réalité profonde. Notre Seigneur, d'ailleurs, utilisera le même procédé dans l'Évangile. Il parle en parabole pour que ceux qui ont l'intelligence de Dieu comprennent et que ceux qui n'ont pas l'intelligence de Dieu, on ne leur donne pas des perles comme à des pourceaux. Voici donc le commentaire d'Origène. Si je peux acquérir ne fût-ce qu'un rayon d'intelligence des visions de Dieu, je pourrais dire que j'ai passé un jour près du puits de vision. Si je puis en saisir quelque chose, non seulement selon la lettre, c'est-à-dire l'apparence, mais selon l'esprit, je pourrais dire que j'ai passé 2 jours près du puits de vision. Et si je pénètre jusqu'au sens moral, c'est-à-dire au sens profond, j'y aurai séjourné 3 jours. Et si, ne pouvant tout comprendre, je suis du moins assidu à écouter les Écritures divines, si je médite jour et nuit la loi de Dieu, si je ne cesse jamais de chercher, de fouiller, d'examiner, et, ce qui passe avant tout, de prier Dieu et de lui demander l'intelligence, à lui qui enseigne toute science à l'homme, alors je pourrais dire que j'habite, moi aussi, près du puits de vision. Quel commentaire extraordinaire! Recevoir un rayon de Dieu, c'est un jour près du puits. Saisir quelque chose au-delà de la lettre, c'est passer deux jours. Comprendre quelque chose du sens profond, c'est passer trois jours. Mais même si je ne comprends pas, rester à supplier, à demander, à méditer, à chercher, ça, c'est habiter. Après Isaac, passons à Rebecca. Rebecca a été stérile pendant 20 ans. Je vous passe sur le commentaire les raisons de cette stérilité qu'on a déjà trouvée chez Sarah, qu'on retrouvera également chez la femme de Jacob, qu'on trouve chez la mère de la Sainte Vierge, qu'on trouve chez la mère de Saint Jean-Baptiste. Il y a évidemment là un mystère qui prépare les peuples à accepter qu'une vierge puisse enfanter. Évidemment, le mystère ne se réduit pas à cela. Rebecca, donc, est stérile pendant 20 ans. Son époux supplie le Seigneur. Il supplie non pas par un caprice, mais toute prière a pour but d'obtenir que la volonté de Dieu soit faite. Et au bout de 20 ans, Rebecca conçoit, elle conçoit si bien qu'elle porte en son sein deux jumeaux. Et dans son sein, les jumeaux se donnent des coups de pied. Ils se disputent. Rebecca se rend bien compte qu'il y a là quelque chose d'anormal et elle va demander conseil. Mais remarquez, elle ne va pas chercher de consolation auprès d'autres femmes. Pia pia pia, tu sais ce qui m'arrive? Pia pia pia, ah bon dis donc, pia pia pia, moi aussi. Elle ne va pas chercher de consolations humaines. Que fait-elle? Elle va consulter le Seigneur. Que cela signifie-t-il? Elle va, c'est-à-dire qu'elle se déplace pour consulter Dieu dans un lieu saint, car Abraham en avait établi. Dieu aime faire sa demeure au milieu des hommes. Et dès le début, Abraham et même d'autres avant lui ont déclaré saints des lieux qui avaient été le siège, l'endroit de grande grâce reçue de Dieu. Et Dieu aime continuer à donner ses grâces dans ces lieux-là, qui sont sanctifiés. Donc soit elle se déplace dans un lieu saint, soit elle va consulter un prêtre, car il y avait des prêtres, parce qu'à l'époque, tout père de famille était prêtre, tout patriarche était prêtre. Mais ces saints hommes qui ont le sens de la majesté divine, qui ont le sens du respect de Dieu, déléguaient volontiers à des hommes spécialement choisis les fonctions les plus saintes du culte de Dieu. Et il y en avait un qui n'était pas encore mort, qui s'appelle Melchisédek, qui avait été choisi par Dieu et qui est un prêtre tellement éminent qu'on le cite au canon de la messe. Jésus-Christ est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Une raison de plus, soit dit en passant, pour étudier l'Ancien Testament afin de comprendre le Nouveau Testament, d'étudier l'Ancien Testament afin de comprendre le mystère de l'Évangile, y compris les mystères les plus élevés de l'incarnation et de la rédemption. Soit, dit Origène, elle se déplace mentalement, c'est-à-dire qu'elle se tourne vers Dieu. Et elle consulte Dieu en elle-même, c'est-à-dire qu'elle consulte le Saint-Esprit qui habite dans son âme. Alors je sais bien, on vous dira, attention, attention, c'est par la hiérarchie qu'il faut passer. Ce n'est pas à vous, à nous, simples fidèles, d'interpréter les réponses du Saint-Esprit, il faut remettre ça entre les mains de la hiérarchie. Bien ceux qui vous disent cela, vous disent équivalemment que la hiérarchie est plus puissante que le Saint-Esprit et qu'elle est plus vraie que le Saint-Esprit. Et Mgr Williamson, dans une conférence autobiographique que je viens d'écouter, après avoir fréquenté les sanctuaires mariaux et s'est intéressé aux apparitions mariales, en conclut, parce que toutes ces apparitions dénoncent la crise dans l'Église et préparent les âmes à la crise dans l'Église, en conclut, j'ai jugé les prêtres par Marie, je n'ai pas fait juger Marie par les prêtres. Donc, revenons à Rebecca. Elle consulte le Saint-Esprit, soit dans un lieu saint, soit par l'intermédiaire de Melchisédek, soit directement en elle-même. Et le Saint-Esprit lui donne la réponse. Cette réponse, c'est que Rebecca porte en son sein. Je vous donnerai tout le détail un peu plus tard, je vous donne uniquement ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Porte en son sein deux jumeaux qui luttent l'un contre l'autre, et le puiné, celui qui naîtra en deuxième, dominera l'aîné. C'est Jacob et Ésaü. Ésaü, l'aîné, ne sera pas du tout un homme de Dieu. Jacob, lui, sera comme son père, un homme de Dieu, un homme de vie intérieure, un homme de foi profonde. Et là, je voudrais vous parler peut-être de ce qui pourrait être une faiblesse d'Isaac. En tout cas, l'Écriture sainte nous dit qu'Isaac préfère son fils Ésaü, qui lui apportait les viandes de sa chasse qu'il aimait manger. Il est évident qu'on ne peut pas accuser Isaac de gourmandise. Aucun père de l'Église ne pense une telle chose. Non, mais certains pères de l'Église pensent qu'il a été peut-être trop sensible aux flatteries d'Ésaü, qu'il a peut-être été un peu aveugle devant les défauts d'Ésaü, défauts que son fils cachait derrière une bienveillance apparente. Peut-être également jugeait-il que les qualités de vigueur, d'entreprise de ce fils très entreprenant étaient des qualités qui convenaient au fils de la promesse, puisque c'était le fils aîné. Rebecca, elle, préfère Jacob, qui est un homme intérieur, méditatif, ce qui est une qualité bien plus importante pour un héritier de la promesse, et même également pour un homme d'action. Parce qu'il n'y a que les hommes de vie intérieure qui peuvent poser des actions extérieures vraiment fructueuses. Les autres ne font que du bruit. Les autres posent des actions sans lendemain. Isaac préfère Ésaü, Rebecca préfère Jacob. La vérité se révélera à Isaac quand Ésaü épousera simultanément deux femmes païennes sans consulter ses parents, et l'Écriture sainte nous dit que cela leur fit une grande peine. Il y a une excuse à Isaac, à savoir qu'il est probable que sa femme Rebecca ne lui avait pas transmis la réponse qu'elle avait reçue en consultant Dieu. Rebecca, cette sainte mère, riche de la réponse qu'elle avait reçue, en profitait pour donner une excellente éducation chrétienne à son fils Jacob. Isaac faisait de même, bien sûr, mais il n'avait pas l'atout de connaître cette réponse. J'ai un dernier point à vous exposer dans ce sermon, c'est l'histoire des puits. Il est question, dans ce chapitre, 4 ou 5 fois de puits. De puits qui ont été creusés et que les ennemis ont rebouché. Les ennemis, parce que Abraham, Isaac et on le verra Jacob, sont de passage. Et ce sont des nomades dans un pays qui est habité par des gens qui possèdent les terres. Or, ces nomades sont bénis de Dieu, ils sont très riches, et donc les habitants sont jaloux. Et le plus simple pour les faire partir, c'est de boucher les puits. Il est évident qu'on a là, sans difficulté, une application à l'Église, et donc à vous, mes bien chers frères. Le puits fait référence à l'eau vive. Rappelez-vous le puits de Jacob, près duquel se trouvait la Samaritaine que notre Seigneur rencontre dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 4. Si les puits de Jacob n'avaient pas une signification profonde, il est évident que Saint Jean n'aurait pas précisé que le puits de la Samaritaine était le puits de Jacob. Et d'ailleurs, notre Seigneur aurait rencontré la Samaritaine auprès de n'importe quel autre puits. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». « Comment vous me demandez à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?»« Si tu connaissais le don de Dieu Et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire » Peut-être aurais-tu fait toi-même cette demande. Il t'aurait donné de l'eau vive.
« Oh, Seigneur, vous n'avez rien pour puiser.
D'où avez-vous donc de l'eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits ?»
Réponse. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
« Seigneur, donnez-moi de cette eau !»
Réponse. « Appelle ton mari. »
Réponse de la Samaritaine. « Je n'ai pas de mari. »
« Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu cinq, et celui que tu as actuellement n'est même pas ton mari. »
L'eau vive, coule dans cette âme et commence à produire la foi.
« Seigneur, je vois bien que vous êtes un prophète.
Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. »
Et cette réponse, qu'il faut méditer, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. »
Eh bien, c'est cela que Isaac nous enseigne par la pratique de sa vie. Il l'enseigne, et cela rayonne, car Abimélec, un grand roi que nous avons déjà vu, va signer une alliance avec Isaac, car, dit-il, « Nous avons vu que le Seigneur est avec toi. » Je conclus. Le carême d'un vrai chrétien. Tout d'abord, méditation de la parole de Dieu. L'eau vive. L'évangile. Lisez les quatre évangiles en un seul. Je l'ai mis en vente sur ma librairie et je vais en ajouter d'autres éditions, parce que c'est très important, c'est très, très intéressant de lire les quatre évangiles en un seul récit. Lisez les textes de la messe du jour pendant le carême. Vous avez la grande méditation si simple qu'est le chapelet ou le rosaire, mais attention, le rosaire commence par une méditation qui est soutenue par la prière vocale. Il n'est pas en premier une prière vocale. Il est en premier une contemplation du mystère, et les paroles viennent soutenir comme une petite musique. D'où, si vous voulez ne pas vous lasser dans le chapelet ou le rosaire, la nécessité d'avoir au préalable médité, puisé l'eau dans l'évangile, dans les textes de la messe du jour, c'est-à-dire dans la liturgie, dans la vie des saints, etc. Rappelez-vous, celui qui reçoit un rayon de lumière passe un jour près du puits, celui qui va au-delà de la lettre passe deux jours, celui qui atteint le sens profond passe trois jours, et celui qui reste à demander, à supplier, à méditer afin de comprendre, celui-ci habite près du puits. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.